Donc voilà, je vous ai parlé plusieurs fois de certaines choses que je ne vais pas répéter maintenant, mais je vous ai dit, ce ne sont pas des prédications les fois passées qui vont, je veux dire, qui vont vous booster, qui vont vous, peut-être vous encourager, enfin, si, je l'espère, vous encourager à servir le Seigneur, parce que c'était ça le thème, mais à servir le Seigneur d'une manière digne, etc. Mais aujourd'hui, oui, je pense que le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, et je préfère ça, quelque chose qui devrait et qui doit vous encourager et qui doit vous booster aujourd'hui. Alors, j'ai juste une question que je voudrais vous poser aujourd'hui, une question auquel j'aimerais que vous répondiez. Vous n'avez pas besoin de répondre à moi, mais une question, je voudrais que vous vous répondiez à vous-même. Et cette question-là, c'est tout simplement celle-ci. Elle n'est pas compliquée et ma prédication aujourd'hui n'est pas compliquée du tout. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une exhortation. Ma question est celle-ci. Où en es-tu ? C'est-à-dire, où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur ? Où en es-tu dans ton service pour le Seigneur ? Où en es-tu dans ta foi ? C'est vraiment ça ma question aujourd'hui. Après toutes ces distractions qu'on vient d'avoir, parce que ce sont vraiment sérieusement des distractions, ces distractions, je ne sais pas, toutes les distractions qu'on peut avoir en tout cas, j'en citerai des toutes simples, les distractions de toutes ces fêtes, de ces réveillons, etc. Et puis qui nous amène finalement à oublier le but, et on l'a vu ce matin, le but de notre existence, pourquoi je vis, pour être, on l'a vu, pour être un adorateur. Un adorateur. Où en es-tu ? C'est ça ma question ce matin. Je pense que vraiment, c'est pas ma question, c'est la question que le Seigneur, la question du Seigneur pour toi ce matin. Où en es-tu dans ta foi ? Où en es-tu dans ta consécration ? Où en es-tu ? Avec ce texte que vous connaissez si bien, parce que on va même pas l'afficher, on en a tellement parlé de ce verset, enfin j'ai l'impression moi en tout cas, parce qu'il est tellement, peut-être c'est parce qu'il est tellement ancré en moi aussi. C'est ce texte de Matthieu 6, 33 qui dit ceci, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Où en es-tu avec ça ? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Où en es-tu ? Pose-toi la question, s'il te plaît, parce que je suis sérieux. Tu en es où avec ça ? Rechercher d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que c'est le monde qui a... On a parlé de tout ça le matin, je ne vais pas répéter, j'ai oublié moi les phrases, les trucs. Chaque fois, je me dis, oh, ça va encore dans ce sens-là. Ce que Lucas a dit aussi, ça va encore dans ce sens-là. Tout va dans ce sens-là. Le témoignage de Sophie, ça va encore dans ce sens-là aussi. Enfin, vous allez voir pourquoi. Où en es-tu ? Seigneur te pose cette question-là, je pense vraiment, oui. Où en es-tu ? Recherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus, te seront données en plus. On connaît ce verset par cœur, non ? Tu ne le connais pas par cœur. Moi, je le connais par cœur. Mais est-ce que ça suffit de le connaître ? C'est un verset qui est très direct. Notre priorité, c'est le royaume de Dieu, pas les affaires du monde. Ta priorité, notre priorité, nous ici, Église de Christ, notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas les affaires du monde. Ce n'est pas les affaires de notre vie courante, je ne sais pas comment dire. Notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses. Ça veut dire, avant ce verset, je vous l'ai déjà dit, hein, je suppose, enfin, ça me paraît tellement... Je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais moi ça me paraît tellement, c'est tellement ancré fort que ce n'est pas possible que je ne vous l'ai pas dit. Avant ce verset, il dit ne vous inquiétez pas de. En fait, il dit, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses, manger, boire, enfin toutes les choses qui peuvent nous préoccuper. Parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Alors, il ne cite pas tout là, évidemment, mais la construction du verset et du texte est claire. Il dit que toutes les choses dont on a besoin dans ce monde, dans notre vie, que ce soit matériel, mais que ce soit aussi peut-être l'affection, enfin toutes ces choses-là, toutes ces choses, il sait tout ce dont nous avons besoin. Voilà, c'est ça. Il sait tout. Si tu as besoin de quelque chose, il le sait. Alors, ta priorité... Ton objectif ne doit pas être ces choses-là, mais doivent être le royaume de Dieu. Bon, fallait-il le répéter ? Certainement. Parce que, bon voilà, on parlait, je ne sais plus à qui je parlais de ça, mais je dis, mais finalement une église, c'est vraiment, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je pense non plus, mais c'est comme une équipe de n'importe quoi, mais une équipe. Et une équipe, voilà, que ce soit de basket, de foot, de n'importe quoi, il faut répéter des fois, mais des bêtes trucs, quoi. Un professionnel doit savoir quand même ces choses-là. On envoie quelqu'un sur le terrain, allez, et puis des fois ils se motivent là, ils font des fois des trucs, vas-y, bats-toi, ça, faut y aller. Attends, t'es payé pour ça. Il faut encore faire toutes ces chimagrées là. T'es payé pour ça. C'est ton boulot de te battre. Et nous, c'est pareil. C'est la même chose. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes humains. Alors j'ai envie de dire, t'es payé pour ça. Tu vis pour ça, pour le royaume de Dieu. Ta priorité, ta vie, c'est ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça ma vie. Ça doit être ça ta vie. Ah. Et il faut encore un coach, un foutu coach que je suis ici comme ça, pour vous répéter et pour nous répéter les mêmes choses, parce que moi aussi j'en ai besoin. Si je vis pour Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Où en es-tu après ces fêtes et toutes ces distractions, après peut-être des épreuves, après des déceptions, après je ne sais pas tout quoi, après toutes ces distractions, où en es-tu? C'est ça la question. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, quand même ce verset-là, le Hébreux 10, le verset 36. Où en es-tu avec ce verset qui dit ceci? Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Voilà. Où en es-tu? Ça, ce sera ce qu'on appelle mon introduction. Il n'y a pas besoin de le dire normalement, hein. Introduction, c'est ça, mais bon, voilà. Je vous le dis, moi. Ça, ce sera mon introduction. Vous avez, tous ces rappels, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, es-tu en train d'accomplir la volonté de Dieu, là? Tu continues, tu persévères. Nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Es-tu en train de persévérer? Où es-tu tombé dans toutes ces distractions? Je ne sais pas. Dans les distractions. Distractions, ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'éloigne du but. Et rater le but, vous savez ce que c'est? C'est quoi rater? C'est quoi manquer le but? C'est péché. Voilà. Ah ouais? C'est ça. C'est péché. Ça veut dire ça. Péché. Manquer le but. Vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Alors, j'aimerais ce matin vous encourager. Vous voyez? J'aimerais vraiment vous encourager. Je voudrais ne pas vous reprocher, mais vous encourager. On a déjà été encouragés ce matin, mais j'aimerais vous encourager pour que vous soyez boostés afin de reprendre la course. Est-ce que tu te sens prêt à reprendre la course? Parce que c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce matin. J'en suis vraiment intimement convaincu. Le Seigneur voudrait te dire, mais reprends la course. Et c'est bien, ça nous a été rappelé. Je me suis dit, mais c'est vrai. On manque de force. On est faible, mais c'est Dieu qui donne les forces. Et Dieu va te donner la force. C'est ça le problème. C'est que souvent, c'est une petite parenthèse, mais qui va dans le sens évidemment de ma prédication. Souvent, ça se passe comme ça. On a des choses peut-être à accomplir, on voit la vie devant soi. On voit ou on imagine, parce qu'on voit ce qu'on voit. Je vais y venir d'ailleurs. Bon. Et puis, on dit, pas le courage, pas la force, etc., etc. Mais c'est Dieu qui donne la force. Et le problème, c'est que pour que Dieu, c'est comme la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se trouve comment? Dans la marche. Je vous l'ai déjà expliqué. Avant les GPS, on faisait quoi? On démarrait avec sa voiture, on marchait, et puis on marchait ou on roulait, ouais. Enfin, on roulait, allez. On roulait, ouais, c'est vrai, c'est mieux. On avançait et puis on essayait de trouver la première plaque parce qu'on savait que c'était direction peut-être Bruxelles ou je ne sais pas quoi. Et puis alors, on essayait de trouver un passant, on ne savait pas me renseigner, etc. Mais si vous restez chez vous, n'allez jamais avancer. Bon, ça va. Maintenant, on a le GPS, c'est pareil. Le GPS, bien souvent, si vous ne démarrez pas, des fois, vous dites, mais dis-moi si, au moins si je dois aller à droite ou à gauche. Savez, des fois, c'est un peu comme ça. Hein. Alors, vous commencez, vous roulez, puis ah, bon, ok. Mais si vous ne bougez pas, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, d'accord ? Eh bien, c'est la même chose avec la force, avec le renouvellement, c'est la même chose. Si tu ne marches pas, si tu restes dans ton découragement comme ça, sans bouger, à regarder ton nombril, ben, tu ne verras jamais que ton nombril. Voilà. Et en plus, sans bouger comme ça, il va de plus en plus être visible parce qu'on va prendre du poids. Tu vas toujours voir ton nombril et tu ne vas jamais trouver les forces parce que tu n'avances pas. Oui, c'est la même chose. Bon, alors, voilà, parce que c'est Dieu qui donne les forces. Et aujourd'hui, donc, je voudrais, pour vous encourager, parler de... Oui, je vais finir par le détruire complètement. Pour vous encourager, je voudrais... Et ça va être le titre de ma petite prédication ce matin. Enfin, moi, je dis une petite parce que je trouve ça simple et voilà. C'est ceci, réalité visible et invisible. Je voudrais vous parler de ça. Réalité visible et invisible. Les réalités visibles, c'est quoi ? Ben, c'est ce qu'on voit. Et les réalités invisibles, c'est quoi ? C'est celles qu'on ne voit pas. C'est pas difficile, hein ? En tout cas, qu'on ne voit pas avec nos yeux. Qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair, qu'on ne sent pas avec nos sensations de chair, qu'on ne sent pas aussi peut-être avec notre odorat pour ceux qui en ont, etc. Voilà. Vous voyez, ce sont les choses naturelles, les choses qui se mesurent. Alors, on va prendre un texte, si tu veux bien, Fabienne, dans 2 Rois, le chapitre 6 et le verset 15. Une histoire que je ne vais pas vous raconter, mais en tout cas, le contexte est que, encore une fois, vous savez, c'est tout le temps des guerres, etc. Et puis, bon, voilà, le peuple est... entouré par des ennemis, comme d'habitude. Non. Hébreux. Non, c'est pas hébreu, hein, non, je regardais, je me dis, c'était 2 Rois 6, verset 15. 2 Rois 6, verset 15. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce verset-là, simplement ? 2 Rois 6, verset... Ben oui, c'est pour ça. 2 Rois 6, verset 15. Alors voilà, on parle d'Élisée, d'accord, c'est Élisée ici, puis il a son serviteur, d'accord, et puis voilà, je vous ai expliqué très brièvement le contexte. Le serviteur de l'homme de Dieu se lève de bon matin, il se leva de bon matin et sortit, et voici, imaginez le tableau, il sort et puis il voit quelque chose, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Voilà. D'accord, situation simple, hein, enfin, je veux dire, facile à comprendre. Le serviteur, il voit tout ça, des chars, des troupes, une armée. Et puis, il va trouver l'homme de Dieu et dit, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Qu'allons-nous faire ? Vous savez, faire un parallèle avec votre vie, hein ? D'accord ? Je n'ai pas besoin de le faire. Des situations parfois qui arrivent. Et puis le verset suivant, la réponse de l'homme de Dieu, justement, Élisée. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Normalement, waouh, mais... Allez, on va faire ça, allez, normalement. Punaise. Qu'est-ce que ben d'Edouermou, comme on dit chez nous. Hein, je veux dire. C'est pour rire. Hein. Moi aussi, je suis comme ça. Quand il y a une prédication, j'écoute. Mais bon, voilà. Moi, j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. Et donc, l'homme de Dieu dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors maintenant, normalement, vous devez avoir capté, là. Hein, vous devez avoir capté. Il y a des difficultés dans l'Église, dans vos vies et tout ça, ça ne marche pas. Hein, Sophie, hein, tu vois, on voit l'armée là, hein, comme tu as expliqué, on voit l'armée. Mais alors l'homme de Dieu annonce, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors là, il y a des gens qui se lèvent. Wow, il y a des gens qui se lèvent. Mais quoi? Des gens qui se lèvent, qui disent, ouais, alléluia, la victoire, on l'a, ils sont en plus grand nombre. Vous voyez, bah, c'est une église vivante. Amen. Parce que c'est ça la vérité. Ah, ça fait du bien, ça c'est une église. Waouh. Je rêvais de ça, vous voyez, j'étais là, je me voyais le soir en train de prêcher, tout ça. Puis Paul, les gens, alléluia, et tout ça, voilà. Alors, bon, comme ça, la douche est froide. Non, c'est pas vrai, j'ai pas rêvé de ça. Hein. Et puis, verset suivant, ah, parce qu'il y a encore un verset intéressant. Le verset suivant, Élisée pria et dit, alors ça c'est moi Élisée, enfin, je me mets à la place d'Élisée, pria et dit, Seigneur, maintenant c'est moi qui te prie, d'accord, à la place d'Élisée. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ce qui n'est pas visible. Hein, pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors d'un coup, ouais, alléluia, Seigneur, je te prie pour que l'église de Warem voit. Seigneur, qu'ils voient. Vous avez vu? Vous voyez? Ah, chouette, alléluia, super, waouh, merci d'avoir répondu à ma prière, Seigneur, pour qu'ils voient des chevaux, des chars de feu, un grand nombre. Voilà, la gloire de Dieu, ça, c'est la vérité. Ça, c'est ta vérité, c'est ma vérité, c'est notre vérité. Ouais, il existe une réalité qui est faite de ce qui est visible à tes yeux et à mes yeux, qui est mesurable pour nous. Mais la vérité dépasse le visible. Amen. Yes! La vérité dépasse le visible de manière incomparable. Ce n'est pas possible, vous voyez. Alors, c'est un truc, c'est pas possible de l'expliquer. Parce que c'est pas possible d'expliquer Dieu. C'est pas possible d'expliquer ce qui est éternel. C'est pas possible d'expliquer ce qui est insondable en étant des êtres limités que nous sommes. C'est pas possible. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas comparer, je peux juste dire que c'est incomparable. La réalité des réalités, la vérité, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, n'est pas sondable, n'est pas comparable avec les choses que tu vois, avec les choses que tu entends, avec les choses qui sont devant toi, c'est pas comparable. Est-ce que tu peux afficher Hébreu, puisque tu as vraiment envie de continuer avec Hébreu? Eh bien, je vais t'en faire prendre un autre, mais pas celui-là, un deuxième, dans Hébreu, chapitre 11, le verset 3. Nous reconnaissons, dit l'auteur, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Quand on entend ça, on dit voilà, on passe là, le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je voudrais un peu qu'on essaye de réaliser ça autant qu'on puisse, parce que ce n'est pas tout à fait possible. Ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Quand des gens rigolent et qui disent « Mais Dieu, on cherche toujours, on a exploré l'univers et on ne le voit pas », c'est normal, parce que Dieu ne fait pas partie de sa création puisqu'il est le créateur. Il est hors de la création. Vous voyez, en même temps, il est là, c'est pas ça que je veux dire. Il est là avec nous tous les jours, mais il ne fait pas partie de la création. C'est lui qui a créé. Et il a créé par sa parole. Les choses que tu vois ont été faites par des choses invisibles. Et cette réalité-là, elle est plus grande. Elle est bien plus grande que ce qui est visible. Mais c'est la même chose pour ta vie, vous voyez. C'est la même chose pour nous chrétiens et pour toi qui passes parfois par des moments difficiles, etc., qui réfléchis sur ton avenir, sur ceci, sur cela. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce que, eh bien, la réalité de ce que tu vois est un mensonge, finalement. Parce que la vérité dépasse. Et il n'y a que ça qui est vrai. Quand Dieu dit, c'est vrai. Quand Dieu a dit que la lumière soit, eh bien, la lumière a existé. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. J'en ai parlé, on a parlé comme ça avec les derniers baptisés. Et je disais, mais écoutez, c'est quand même extraordinaire, parce que je réfléchissais. Alors, je ne suis pas un scientifique, mais j'aime bien les émissions sur la station Science et Vie, enfin, le poste, je ne sais pas comment on dit, la chaîne, voilà, le poste. Mais oui, mais je sais bien, mais je sais que c'est un mot qui a très mal vieilli, mais je ne trouvais plus la station, j'aime bien Science et Vie. Et puis alors, là, on vous parle de planètes, de machins, de plein de trucs. Et entre autres, la matière. Je dis, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous allez me dire qu'il y a le rapport, mais c'est parce que je me dis, mais les scientifiques, là, un atome, on ne sait pas le voir. Vous savez ça, quand les microscopes, on ne le voit pas vraiment. On sait son existence. Et puis, de toute façon, un atome, moi, je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire à quel point c'est petit, mais alors on sait qu'en plus, c'est pas la matière élémentaire, enfin, il y a plus petit, quoi, voilà, je vais le dire comme ça. C'est fait avec un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et puis encore plus petit, parce que dans le noyau, il y a les neutrons et les. Voilà, et c'est fait de quarks, d'accord. Bon, je ne vais pas continuer, je ne suis pas un scientifique. Mais ce que je veux dire par là. Vous savez de quoi est fait? Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi est fait la matière? Ouais, parce que je l'ai déjà dit, vous trichez, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Est-ce qu'il y en a qui savent, à part ceux à qui j'en ai déjà parlé, de quoi est fait la matière? En grande partie, de rien, vide. C'est du vide. Ouais, c'est comme ça. Entre un atome, voyez, un atome, eh bien, le noyau, vous avez les protons et les neutrons, qui sont formés de quarks, parce qu'ils sont encore plus petits, enfin, soit. Et vous avez les électrons qui tournent autour. Et les électrons, c'est 1000 fois plus petit ou 2000 fois plus petit qu'un neutron, je pense. Et vous savez la distance qu'il y a entre le neutron et les électrons, bien, on va faire une comparaison. Une petite bille d'un centimètre. Admettons que ce soit le noyau. Ça va? Eh bien, l'électron, vous savez à combien? L'électron qui est 2000 fois plus petit, vous savez à combien il se trouve? 2 kilomètres. Ça, c'est la comparaison. Tout ça, il n'y a rien. Ce sont des forces. Alors, quand je dis, par exemple, quand je tape dans les mains, ma main touche l'autre, d'accord? Eh bien non, il n'y a rien qui touche rien, en fait. Parce que tout ça, ça fait quasiment de vide. Alors finalement, et puis c'est quoi tout ça? Parce qu'on ne sait même pas le voir. Même avec des microscopes puissants, on n'arrive pas à le voir. Bon, alors, vous allez me dire pourquoi il parle de ça. Mais moi, quand j'entends ça, quand je vois ça, je me dis, punaise, on ne sait même pas. La vie a été créée par Dieu. La matière a été faite par la parole de Dieu. Dieu a dit, les choses se sont faites. Mais c'est quoi? Et nous, on est. Moi, ça me donne le vertige, si vous voulez, ces choses. Parce que je me dis, mais on ne sait rien. On ne sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Dieu qui a fait tout ça. Il a dit, les choses se sont faites. Et les choses tiennent. Parce qu'il y a des les machins négatifs, positifs. Hein, vous savez, moi, je ne veux pas parler. Je peux, même dans la vulgarisation, je ne suis pas fort. Mais bon, voilà, ça m'intéresse. La réalité. Bref, tout ça, c'était pour vous parler de la réalité qu'on voit et de celle qu'on ne voit pas. Les choses visibles que tu vois, tu les vois peut-être, mais elles nous mentent souvent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'arrêter au feu rouge. Hein. Il faut s'arrêter au feu rouge. Mais je parle de la vie. Les choses visibles, elles nous mentent. Parce que les choses réelles, enfin, les choses, la vérité, elle est en Dieu, elle est en Christ. Elle est tellement différente de notre réalité. Elle n'est pas mesurable, insondable, comme je l'ai dit, incompréhensible pour l'homme. Incompréhensible pour l'homme, vous voyez? La vérité de Dieu, elle est quelque part, oui, je l'ai fait exprès de dire ça, incompréhensible pour l'homme. Si ce n'est, évidemment, dans les limites et la mesure où Dieu nous la révèle. Alors là, oui, d'accord. Mais elle est incompréhensible parce que c'est Dieu. Il n'est pas mesurable. Et donc, je voudrais vous prendre un petit exemple. sur la persévérance, parce qu'aujourd'hui, c'est à cela que je voudrais vous encourager, à persévérer. À persévérer et à vous expliquer ceci, c'est que la persévérance se joue sur un terrain. Et ce terrain, c'est celui de la vérité. Essayez de me suivre, parce que je vais essayer de m'expliquer convenablement, mais c'est... Ben, j'espère que ce sera facile. J'espère que vous allez me comprendre. La persévérance se joue sur un terrain. Alors, on imagine vraiment un terrain, on imagine vraiment un jeu, d'accord ? Une équipe, des jeux, enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Elle se joue sur ce terrain-là. C'est le terrain de la vérité. Et le but consiste, le but pour toi et moi, consiste à vivre et à marcher selon la vérité. C'est ça le but du jeu. C'est-à-dire donc de marcher par l'Esprit. D'accord ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui est en toi qui sait, qui révèle les choses vraies. Et ces choses vraies-là, elles sont dans la parole de Dieu, entre autres. Mais aussi, Dieu peut nous parler aussi d'autres manières, évidemment. Et donc, je vous répète, la persévérance, parce que c'est à cela que le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui, c'est à persévérer. La persévérance se joue sur ce terrain de la vérité. Et cette vérité-là, elle n'est pas dans ce qui est visible, à l'œil nu, mais dans ce qui fait partie des choses de l'Esprit et des choses de Dieu. La persévérance se joue sur ce terrain-là. Je répète que le but consiste à vivre, le but consiste à ce que tu vives selon la vérité. Donc à marcher selon l'Esprit, la vérité. Donc pour ça, il faut connaître la vérité. Et c'est ça qui doit diriger mes pas. Et c'est ça qui doit me permettre de persévérer. Cette vérité, donc, je vous l'ai dit, c'est la parole révélée, la Bible. Mais je le dis exprès de dire la parole révélée. J'ai choisi mes mots. Pourquoi ? Parce que vous croyez que dans la Bible, on peut mettre tout Dieu ? C'est une façon de voir un peu religieuse. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais non, c'est tout en tout cas, ce que nous avons eu besoin comme parole écrite pour que Dieu se révèle à nous, qui sommes limités par notre compréhension. Mais Dieu est bien plus grand que même sa parole. Vous voyez ce que je veux dire ? Il dépasse ça. En fait, soit. En tout cas, Dieu se révèle au travers de sa parole. Et de tout ce qui vient de Dieu. De tout ce qu'il déclare. D'accord ? Donc, alors, je reprends au début parce que j'ai peur que vous ne compreniez pas. Je ne voudrais pas être trop long et trop lourd et tout ça, mais je voudrais que vous compreniez. Donc, la persévérance se joue sur le jeu de la vérité, sur ce terrain de la vérité. Et ce terrain de la vérité, voilà, le but consiste donc à marcher en sachant la vérité. C'est quoi ? Je dois faire quoi ? Ah, ok, là. Je dois aller par où ? Par là. C'est le Seigneur qui me le dit. Est-ce que je vais... Seigneur, je te consulte, comme il faisait souvent enfin, parfois, pas toujours, malheureusement, mais ces histoires de guerre et tout ça dans l'Ancien Testament. Seigneur, est-ce que je dois descendre pour combattre ou pas ? Est-ce que je vais vaincre ou pas ? Oui, alors ok, je vais vaincre. Seigneur, quel est mon... Voilà, c'est... Quel est mon avenir ? Qu'est-ce que tu réserves pour moi ? Qu'est-ce que je dois faire ? À quoi tu m'appelles ? Tout ce que Dieu me dit, je le fais. Parce que je sais que c'est la vérité, que je marche selon la vérité. Et je persévère, et merci Luc pour ce que le Seigneur t'a... Enfin, merci Seigneur plutôt d'avoir utilisé Luc. Et donc, c'est Dieu qui va donner la force quand je vais faire ce qu'il me demande. Je ne dois pas me poser la question. Je ne dois pas regarder la réalité de ma vie et de ce que je suis. Sinon, je ne ferai jamais rien. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que l'ennemi tient l'Église emprisonnée. Amen. Oui, c'est comme ça qu'il fait. Avec cette réalité qui nous aveugle. Et donc voilà, moi je ne dois pas regarder ça, je dois marcher par l'Esprit selon la vérité. D'accord ? Ça se joue sur ce terrain-là. Alors s'il te plaît Fabienne, est-ce que tu peux mettre Philippiens le chapitre 4, le verset 8 ? Et je vais le raboter un petit peu parce que vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir le verset. Et il dit, Paul dit voilà ceci, au reste frère. Que tout ce qui est, on passe le reste, hein, d'accord ? Que tout ce qui est vrai soit l'objet, et il cite aussi d'autres choses, hein, soit l'objet de vos pensées. Voilà comment on persévère, voilà comment on vit une vie de foi, voilà comment l'Église grandit. Voilà comment l'Église grandit. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Quand tu te lèves le matin et que tu commences déjà. La première chose que tu penses, c'est « qu'est-ce que je suis moche quand tu te vois dans le miroir ?» ça va jamais aller, quoi. Ou ça ne va pas, je suis nul, ça ne va pas aller. Que tout ce qui est vrai, tu te trouves moche, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Attends, Dieu t'a créé, Dieu ne rate rien. Bon, ok, il y en a des plus beaux que d'autres, mais... non, c'est pour rire. Non, sérieusement, non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Alors ce n'est pas pour rien, je pense, n'est-ce pas, qu'il commence par ça dans ce verset. Que tout ce qui est vrai fasse l'objet de vos pensées. Tout ce qui est, ça veut dire tout ce qui est véritable. Tout ce qui est vrai, c'est la parole qui crée. C'est ce qui est invisible qui a créé le visible. Et c'est ça qui doit nous diriger, nous. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Visiteurs, passagers. Vous comprenez? Et nous n'appartenons pas à ce monde. Et d'ailleurs, nous sommes assis dans les lieux célestes déjà avec Christ. Et donc, quand tout ce qui est vrai occupe nos pensées, nous pouvons alors, continuer le verset et dire ceci, frère de Warem, frère de cette église, que tout ce qui est vrai, alors si on fait ça, tout ce qui est honorable, juste, droit, voyez, pur, ça veut dire, ça ne sent pas mauvais, il n'y a pas de bactéries, de machin, je sais pas, c'est pur. Tout ce qui est aimable, ça veut dire vraiment rempli d'amour, tout ce qui mérite l'approbation, pas des hommes, de Dieu, tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux, ça veut dire, finalement, on va dire que c'est à peu près la même chose, ça mérite l'approbation, vertueux, des vertus, des qualités. Tout ce qui est digne de louange, des louanges de qui? Des hommes? Non. Des louanges de Dieu. Tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà comment on persévère. Voilà comment on persévère avec la vérité. Alors, le but de l'adversaire, lui, il est quoi? Parce qu'évidemment, on a un adversaire. Et le but de l'adversaire... C'est quoi? C'est de détruire tes yeux spirituels, donc de te rendre aveugle spirituellement pour que tu deviennes inefficace. Il veut rendre l'Église aveugle et il n'arrête pas de montrer à l'Église « Mais regarde ça! Mais regarde ça! Mais regarde ça! Et ta vie, mais regarde ça! Mais regarde ça! » Il met tout le temps... Et toi, tu l'as. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Et lui, sur ce terrain-là, vous voyez, on est sur ce terrain-là, nous avons un objectif, marcher selon la vérité. Et lui, il est là tout le temps en train de dire, mais non, regarde, mais non, regarde, mais non, regarde. Et lui, c'est le but, c'est son but. Parce qu'en nous montrant ces choses-là, il veut que nous devenions, donc, comme je l'ai dit, inefficaces, que nous perdions la foi, que nous perdions l'amour pour Dieu, que nous perdions l'amour les uns envers les autres, que nous soyons des chrétiens, c'est ça son but, que nous soyons des chrétiens qui n'expérimentent jamais la victoire de Christ ou le moins possible. Et voilà ce que l'ennemi fait. Il le fait comment, donc? Sa technique, c'est quoi? Sa technique, parce que vous savez, dans un match, que ce soit de foot ou de basket, n'importe quoi, on a des techniques, hein, oui, il y a des techniques, il y a des techniciens, comme on dit. Eh bien, sa technique à lui, je dis c'est ça, ça consiste, je le répète, à nous rendre aveugles. À nous rendre aveugles. Et quand nous ne regardons que la réalité terrestre, nous sommes des aveugles. Je suis désolé, mais pas désolé, content de vous le dire plutôt, quand nous regardons la réalité terrestre, visible et mesurable, d'accord, nous sommes des aveugles. Parce que les choses visibles n'ont pas été faites par des choses visibles, mais par les choses invisibles. Donc son boulot, c'est ça. Nous rendre aveugles, comment? En nous trompant sur la véritable réalité, ce qui est la vérité. En nous enfermant dans le visible, le rationnel et même l'émotionnel. D'accord, je vous répète, il fait comment sa technique? Je répète juste la fin. Donc, il t'enferme dans ce qui est visible, dans ce qui est rationnel. Tu dis, c'est rationnel, tu raisonnes. Ah, ne vous soumettez pas au siècle présent. Donc, ne raisonnez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut arrêter de raisonner avec le rationnel. Mais il faut marcher par l'esprit. Et donc, il veut te faire, il te montre des choses rationnelles. Il nous enferme par le rationnel. Le visible, mais aussi l'émotionnel. Parce que la plupart des gens, la plupart chrétiens ou pas chrétiens, vivent comme ça. Ce que je ressens, c'est ce qui est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ah ben oui. Parce que quand, vous savez, moi je suis sensible à ça, les changements de saison, malheureusement. Et c'est très désagréable parce que quand on est sensible à ces choses-là, on se sent pas bien à ce moment-là. On a un moral moins bon, on a moins d'enthousiasme, etc., etc. D'accord ? C'est chimique. Physique, chimique, je sais pas quoi. C'est... Voilà. Est-ce que Dieu n'est plus avec moi quand la saison change ? Est-ce qu'il n'est plus avec toi quand la saison change ? Est-ce que quand tu es déprimé le matin, le Seigneur n'est pas avec toi ? Si, il est avec toi. Il est avec toi. Les gens croient que l'émotionnel, c'est la vérité. Tu ressens, donc c'est vrai. Je sens que, donc c'est vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est le diable qui nous enferme et nous rend aveugles. D'accord ? Eh bien, dans ces conditions-là, la foi devient invivable. La foi devient impraticable. On ne peut pas vivre par la foi comme ça. On est sur un terrain impraticable. Donc voilà un peu le match, voilà un peu le terrain. Et je voudrais vous donner un exemple. Et je vais appeler Jean. Jean, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît ? Et je vais demander à tout de suite après à Jérôme de faire ce que je lui ai demandé, si tu veux bien envoyer la sauce, s'il te plaît, par là. Voilà. Et Jean, voilà, je vais te bander les yeux. Oui. Alors voilà, s'il te plaît, Jean, excuse-moi. Alors, Jean, tu me vois ? Ok. Il est toujours dans la réalité, n'est-ce pas ? Il est là, il me sent, il est là. Enfin, je veux dire, ok. Jean, tu m'entends, Jean ? Je suis où ? Elle vient d'où, ma voix ? Montre un peu d'où vient ma voix. Ouais, c'est moi. C'est moi, je suis Dieu. Je suis c'est la réalité, c'est moi. Et je te dis, Jean, tu perds ton temps. Tu as vu l'âge que tu as. Tu es près de la pension. Tu as vu les échecs. Repose-toi. Arrête. Tu m'entends ? Tu m'entends bien ? Je suis où ? Je suis là. C'est moi. Tu m'entends ? Ok. Merci. Voilà, je vais te délivrer. J'avais peur de tirer sur tes cheveux, mais non, je me dis tout contre. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire, là ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Tu peux t'asseoir, hein, Jean, je te remercie. Qu'est-ce que je viens de faire, là ? Confusion. Ouais. D'où sortait la voix ? De là, non ? De là, non ? C'était la réalité, non ? Ouais, elle sortait de là. Pourtant, je n'étais pas là. C'est du mensonge. C'est comme ça que l'ennemi agit. C'est pas vrai. Vous voyez ? Ah mais si. Et alors on discute, si, je t'assure, c'est vrai. Regarde ma vie et tout ça. Et non, vous avez compris, hein, je ne vais pas essayer de... Vous avez compris mon exemple. Alors, ta technique à toi, parce qu'il faut aussi qu'on ait notre petite technique, ta technique à toi, chrétien, doit être celle-ci, c'est de n'accorder pour ta vie à ce qui est visible que le crédit qu'il mérite. C'est-à-dire, tu t'arrêtes au feu rouge et tu démarres quand c'est vert et tu te contentes de ça. Ou sinon, tu accordes à ce qui est visible le seul crédit qui est celui-ci, aucun. Vous m'avez suivi ? Je recommence autrement. La technique à nous chrétiens, c'est de n'accorder aucun crédit, c'est-à-dire je ne te crois pas, je te vois, mais je ne te crois pas, parce que moi je suis chrétien, je crois Dieu, je crois ce qu'il dit, je crois ce qu'il déclare, et quand Dieu déclare, il fait. Moi, je peux vous dire que, pas seulement par la foi, mais par expérience, je sais que chaque fois que Dieu m'a promis quelque chose, il l'a fait. Par exemple, permettez-moi de dire que quand on voit Cindy, ici, maigrie, malade, avec ce que les médecins disent, etc., etc., je vous dis que si Dieu dit « je vais faire ça », c'est très facile, parce qu'on n'a rien à faire, il va le faire. C'est pour ça que moi, quand j'ai prié, j'ai même dit « Seigneur, je déclare que ce que tu dis, tu vas le faire ». Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et amen. Rien d'autre. La réalité, donc, elle est tout à fait différente. Donc, ta technique à toi, ça doit être celle-là. Je te vois, mais je ne te crois pas. Je ne t'accorde aucun crédit. Donc, mon but à moi, c'est de faire quoi ? C'est de chercher la face de Dieu. Alors, si nous ne persévérons pas, si nous sommes là, distraits par les fêtes et par nos occupations, comment est-ce que nous allons continuer à marcher dans la persévérance et dans la foi ? Comment est-ce que nous allons faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? La foi est impraticable dans ces conditions-là. Ma préoccupation, ta préoccupation doit être celle-ci. Chaque instant de ta vie, connaître Dieu. Chaque instant de ta vie, connaître sa volonté pour toi. Chaque instant de ta vie, savoir quelle est la pensée de Dieu et la garder. Il y a des pensées qui restent comme ça aussi. Ce n'est pas seulement pour des petites choses, n'est-ce pas ? C'est pour toute ma vie. Je marche par l'Esprit, c'est ça. Pour que ce qui est bon et que ce qui est vrai dirige ma vie. D'accord ? Et voilà, on pense à, c'est pour ça qu'on pense à ce chant. C'était bien de chanter ce chant-là. Un cœur d'adorateur, c'est ça ? Ça veut dire un cœur qui s'humilie, oui, mais un cœur qui désire le Seigneur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche. Est-ce que tu as ce cœur-là ? Parce que Dieu dit, change ton cœur, hein, d'accord ? Ça veut dire que tu peux le faire, change ton cœur alors. Si tu n'es plus là-dedans, change ton cœur. Un cœur qui recherche Dieu, un cœur qui le désire. Parce que Dieu est bon et il ne ment pas. Je lisais un petit commentaire, une parole de quelqu'un, comme ça j'aurais un peu des difficultés peut-être à la retrouver, mais enfin, soit, c'est pas important. Quelqu'un qui disait ceci, nous devons apprendre à donner autorité dans nos pensées, d'accord ? Dans nos paroles, dans nos raisonnements à la vérité. Il faut apprendre à donner autorité à la vérité, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actions, à la vérité qui vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, dit ceci, 17-18 en fait, parce que c'est surtout le 18, mais je vais vous le lire avec le contexte. Nos légères afflictions du moment, évidemment il est dans la comparaison là s'il dit légère, hein, parce que ne faut pas oublier que Paul, il est en prison, il a subi des bazars, hein, pour dire comme ça. Voilà, nos légères afflictions, dit-il, c'est légère, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ensuite, verset suivant, parce que vous dites, mais comment ça ? Oui, il y a une raison à ça, c'est parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Voilà. Voilà pourquoi même les épreuves produisent, pour reprendre le texte, produisent un poids éternel de gloire. Waouh ! Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux invisibles, d'accord ? Qui sont vrais, parce que les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alors, je vais terminer tout doucement comme ceci. La réalité te dit que tu es faible dans ta nature. Oui. Mais la vérité te dit qu'en Christ tu es fort. que tu peux tout, tout, par celui qui te fortifie. Ça, c'est la vérité. Et il n'y en a pas d'autre. La vérité te dit que de toute façon, la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Dis-moi alors où est le problème. Et la puissance de Dieu, elle n'est pas contre toi, elle est pour toi, parce que Dieu t'a racheté. Alors dis-moi où est le problème. La réalité te dit que tu n'es qu'un faible humain. Il y en a beaucoup qui me parlent comme ça, vous savez, qui me disent, mais si tu savais, comme je suis faible, et comme je chute, et comme je trébuche, et comme je n'arrive pas à ceci, ça. Et la réalité te dit ça, que tu es un faible humain. Mais la vérité te dit, tu peux l'afficher peut-être, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que la vérité, c'est que nous sommes déjà tu es déjà, non pas avec ton corps, parce que tu es encore lié à ce corps-là, mais tu es, c'est une réalité. Tu es déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une réalité. Tu es avec lui, déjà là, mais aveuglé par ta nature terrestre, par cette réalité terrestre. La réalité te dit que tes ennemis, alors ça peut être des épreuves, je ne sais pas ce que c'est tes ennemis, je ne sais pas qui ils sont moi tes ennemis. Souvent c'est nous-mêmes, hein, on l'a vu hein, précédemment. Eh bien la réalité te dit que tes ennemis sont plus nombreux et plus forts que toi. C'était le cas hein, dans le texte que nous avons lu au début. Mais la vérité te dit que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts, tu as les myriades d'anges qui sont avec toi. Bref, tu as été racheté par le sang de Jésus et ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. La réalité te dit que tu es indigne d'être aimé de Dieu à cause de ce que tu as fait, à cause de tes chutes interminables, etc., et tes péchés, et tout ça, et ton passé, et ce que tu es, et ton caractère faible, etc., je ne sais pas, etc., tes émotions, etc., etc. La réalité te dit qu'à cause de tout cela, tu es indigne d'être aimé de Dieu. Mais la vérité te dit que Jésus-Christ a donné son Fils unique pour toi. Il est mort pour toi, il t'a racheté. Je pourrais en dire beaucoup comme ça, mais faites-le vous-même, vous êtes intelligent. Ne laissez jamais la réalité déformer ce que Dieu a dit. Amen. Sinon, c'est grave, parce que tu élèves l'humain au-dessus du Créateur. Or, c'est le contraire. Dieu est au-dessus de sa création, de sa créature et de toi. C'est lui qui sait. Ça va ? Ne laisse pas la réalité déformer ce que Dieu dit. Et en conclusion, je voudrais encore vous dire ceci. J'ai dit cette petite phrase, je pense, la semaine passée en passant comme ça, je voudrais la redire aujourd'hui, dans un autre contexte. Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Il ne s'est pas trompé en te créant. Il t'a fait, il ne s'est pas trompé. Il t'a fait avec tes qualités, avec tes ressources, tes possibilités, il ne s'est pas trompé. Il ne t'a pas non plus abandonné et il n'a pas abandonné son plan pour toi à cause de toutes tes erreurs. Je voudrais te le dire aujourd'hui. Je voudrais que ça rentre. Ça va ? Dieu ne regarde pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, et donc il regarde au cœur. Et il sait mieux que toi-même, il sait mieux que toi ce qu'il a déposé dans ton cœur. Et ce qu'il a déposé dans ton cœur, personne ne pourra l'enlever. Ça, c'est la vérité. Alors parfois, quand je dis, je mesure mes paroles quand je dis « il sait mieux que toi ». Parce que des fois, on croit, et puis on croit qu'on a compris, puis Dieu parfois doit nous reprendre et se dire, mais enfin ça c'est autre chose, il sait mieux que toi, parfois il doit peut-être un peu te corriger, mais ça c'est autre chose. Ce qu'il a déposé dans ton cœur, il le sait. Et c'est 1 Samuel 16, le verset 7, mais vraiment tout à la fin, où Dieu dit ceci, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme, L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça va, vous connaissez ce verset. Et la dernière chose, c'est juste deux petits versets que je voudrais vous lire encore en conclusion. J'ai cité ça il y a des années, ces versets-là, mais je sais que je les ai déjà cités. C'est dans Matthieu 11, le verset 12. Deux versets, je vais quand même les afficher, d'accord, pour terminer. Et le verset, donc, Matthieu 11, verset 12. Je ne sais plus malheureusement dans quelle version c'était, mais Matthieu 11, verset 12. C'est bizarre ça, je me suis trompé. C'est pas la bonne référence, parce que le texte dit ceci. Le royaume des cieux est forcé. C'était ça? Ah oui, voilà, c'est parce que j'ai... Voilà, c'est ça, la première partie, voilà. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et ça, voilà à quoi je voudrais, le Seigneur voudrait t'encourager aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Je vous l'avais expliqué à cette époque-là. Forcer le royaume signifie en prendre possession, l'enlever de force, le ravir, le vouloir. C'est le vouloir, voyez? C'est le vouloir. Et donc... quand on dit que le royaume des cieux est forcé, ça veut dire que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il faut le vouloir. Alors aujourd'hui, tu as tous les éléments pour le vouloir. Et quand ce verset dit, il est pour ceux, pour les violents qui s'en emparent, ça veut dire c'est pour ceux qui saisissent, qui ont, c'est un verbe qui exprime le fait d'enlever de force, de réclamer ardemment pour soi, d'arracher quelque chose, vous voyez? C'est cela que ça veut dire, ça ne veut pas dire la violence brutale, hein, ça va? Donc, nous devons continuer à rechercher activement le royaume de Dieu. Tu dois continuer à rechercher activement le royaume de Dieu. Église de Warem, tu dois rechercher activement le royaume de Dieu parce que sa valeur, la valeur du royaume de Dieu dépasse les choses visibles et dépasse les trésors du monde. Colossiens 2, 3, j'ai terminé. 2-8, pardon. C'est l'âge où on confond les 8 avec les 3. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout. Est-ce que le groupe de louange peut venir? Comme ça on chante un chant. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Parce que je sais que vous êtes fatigués là maintenant. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de la matière. Il est le chef des événements de ta vie. Il est le chef de tout ce qui se passe autour de toi. Il est le chef de cette église. Il est le chef de ta famille. Il est le chef de ta vie. Il est au-dessus de toute domination, de toute force, de toute autorité. Amen. Et ça, vous savez ce que ça veut dire quand il dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Tout pleinement en lui. Vous savez ce que ça veut dire dans ce verset-là? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a rien qui manque. Quand tu cherches, premièrement, et c'est par ce verset-là qu'on a commencé, quand tu cherches, premièrement, le royaume de Dieu, il n'y a rien qui manque. Un besoin peut-être d'être aimé, le matériel, tout, il n'y a rien qui manque. Tout est en Christ, pas ailleurs. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus, parce que tout est en lui, tout est en Christ, il n'y a rien qui manque. Amen. Vraiment, amen. Que le Seigneur vraiment vous encourage, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse grandir. Amen. La croix seule me suffit, normalement. Mais je ne sais pas si vous êtes capable de chanter ça. Non, je viens d'y penser maintenant. Je vais chanter un nom, mais je dis, oh, c'est parce que je viens de penser à ça. La croix seule me suffit. Vous savez pas le chanter, hein? Bon, chantez celui que vous avez prévu. Alors.